L'évangile de Jean, chapitre 17, les 11 premiers versets. Jean, chapitre 17, versets 1 à 11. Au nom de Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Manifeste la gloire de ton Fils, afin que le Fils manifeste aussi ta gloire. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains pour qu'il donne la vie éternelle à ceux que tu lui as confiés. La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. J'ai manifesté ta gloire sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Maintenant, donc, Père, accorde-moi en ta présence ta gloire que j'avais auprès de toi quand le monde existe. Je t'ai fait connaître à ceux que tu as pris dans le monde pour me le confier. Ils t'appartiennent, tu me les as confiés et ils ont obéi à ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont accueillies. Ils ont reconnu que je suis vraiment venu de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as confiés, car ils t'appartiennent. Tout ce que j'ai à toi et tout ce que tu as est à moi. Et ma gloire se manifeste en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux dans le monde, sont dans le monde. Moi, je vais à toi, Père Saint, garde-les par ton divin pouvoir, celui que tu m'as accordé, afin qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Amen. Après avoir lu ce texte, je me suis dit à moi-même, il est compréhensible de constater les réticences des uns et des autres à ne pas croire en Dieu. C'est compréhensible. Rien que dans notre texte d'aujourd'hui, ce texte est truffé de paradoxes. D'ailleurs, cette thématique-là m'a toujours intrigué de voir qu'il y a perpétuellement un paradoxe en Dieu. Et j'ai même écrit mon mémoire là-dessus, ayant comme titre « Le paradoxe en Yahvé ». Les théologiens systématiciens, c'est-à-dire les dogmaticiens, ils ont même donné une appellation assez intéressante de Dieu, le « tout autre ». Si vous voyez cela dans des livres, le « tout autre », ce n'est que Dieu, à cause de sa nature paradoxale. Et très souvent, nous nous posons des questions sur Dieu, surtout sur ses non-interventions. Comment se fait-il qu'il semble être passif, ce Dieu, face à certaines souffrances de ses serviteurs? Et pourtant, c'est toujours le même Dieu qui dit qu'aucun moineau ne tombe au sol. Il dit aussi que l'homme a plus de valeur que toute une volée de moineaux. Et comment se fait-il beaucoup de chrétiens avait subi des représailles, humilié à mort. Et là, forcément, qu'on le veuille ou non, nous nous posons tous des questions. Où est Dieu? Et la réponse, il se manifeste là où on ne l'attend pas. Regardons le texte. Ce paradoxe se reflète dans les propos de Jean. Tout d'abord, Jésus qui dit « Père, manifeste la gloire de ton Fils. » Mais de quelle gloire parle-t-il? Le contexte ici, Jésus s'apprête à affronter la mort. Et pas n'importe laquelle. Ce sera une mort terrible, dans l'humiliation totale. Et encore une fois, le paradoxe est toujours là. Celui qui se dit le Fils de Dieu se présente très vulnérable, à la merci de tout le monde. Et il y a même un père d'église, Saint Irénée. Ce père d'église, Saint Irénée, ne supportait pas cette idée d'une glorification de Dieu par la mort de son fils Jésus-Christ. Il serait inconcevable de célébrer la mort. Ça ne se fait pas. Ce que font les communs des mortels, ils célèbrent plutôt la vie et non la mort. Toutefois, ici, la gloire de Dieu se manifeste justement à la croix. Oui, une fois de plus, la théologie de la croix est peu suivie par rapport à la théologie de la gloire. Deuxième paradoxe, la notion de vie éternelle que Jésus annonce n'est pas du tout ce que nous avons cru et ce que nous avons pensé depuis toujours. Regardez bien la définition donnée par Jésus ici, ce que c'est que la vie éternelle. La définition, elle est vraiment étonnante, voire même bizarre. Il ne parle pas d'une vie sans fin, puisque dans notre tête, quand on parle de vie éternelle, c'est une longue durée, une vie assez longue, interminable. Or, c'est ce que l'homme cherchait depuis la nuit des temps, où trouver le secret de rajeunissement, l'immortalité. Et là, Jésus dénote encore une fois, la vie éternelle, selon lui, c'est une connaissance du seul vrai Dieu et de Jésus qu'il a envoyé. C'est ce qu'il dit dans notre texte. Connaître Dieu et le Christ. Une connaissance, c'est-à-dire une relation. Dès maintenant avec Dieu, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Connaître une relation. Un théologien français, un cher ami d'André Nouy, avait utilisé une belle expression que j'ai repris comme thème aujourd'hui, vivre l'aujourd'hui de Dieu. Voilà la vie éternelle. Vivre l'aujourd'hui de Dieu. Il n'est pas question d'une attente ou d'une expérience d'une vie meilleure à venir, puisque nous, actuellement, on est vraiment braqués sur l'avenir. Mais la vie éternelle, chers amis, c'est vivre l'aujourd'hui de Dieu. Et le chrétien est celui qui vit pleinement l'aujourd'hui de Dieu dans sa vie. Ici-bas, alors nous anticipons, même si ce n'est pas encore dans son entièreté, bien sûr, le royaume de Dieu, nous vivons déjà, aujourd'hui, maintenant, la vie éternelle. Notre existence terrestre, c'est de faire régner ici et maintenant ce royaume de Dieu qui est loin de notre vue. Si Jésus a mis dans la prière de notre Père la phrase suivante, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et dans le ciel », c'est à nous de vivre pleinement cette prière. Dans notre monde, ce qui nous attend là-haut. Dans cette prière, Jésus nous invite à vivre ce royaume de Dieu aujourd'hui. Une fois, j'ai eu une discussion avec ma sœur, peut-être qu'elle me suit, elle va être étonnée, ma sœur cadette. Elle m'avait partagé son impression sur la pensée de la majorité des croyants. Voici ce qu'elle m'avait dit. Je ne suis pas pasteur comme toi, ni théologienne, mais je trouve que c'est trop triste comme concept, le fait de dire qu'ici-bas, nous ne sommes que comme si on était dans une sorte de salle d'attente, attendre quelque chose. Comme si on allait chez le dentiste, on attend le tour, chacun attend son numéro. Voilà l'image que nous donnons un peu de l'attente du retour du Christ. Alors quand on est dans cette salle d'attente qui nous est interdite, ou impossible de jouir déjà les richesses du ciel, mais il faut attendre, il faut patienter. Et en réfléchissant, elle a parfaitement raison. D'ailleurs, un grand théologien de renom avait posé une même question qui a fait tourner la réflexion de tout le monde lors d'une conférence où j'étais présent. Il nous avait posé la question suivante. Savez-vous pourquoi Dieu nous a préparé le paradis? Et nous étions tous bloqués, car on ne s'attendait pas à ce genre de question, qui au départ semblait être un peu ridicule comme question. Ou même voire enfantin. Mais c'est quoi cette question? Eh bien non, Nous étions tous bloqués et nous n'avons pas pu le répondre. Et il nous a repris avec une réponse très simple. Parce que notre vie ici-bas, disait-il, ne suffit pas pour raconter les bienfaits du Seigneur. Il nous faut toute une éternité pour raconter ce que Dieu a fait pour nous tous les jours. C'était une réponse inattendue, mais vraie. Il nous faut toute une éternité pour raconter les louanges du Seigneur. Et cette réponse change tout dans notre façon de voir le paradis, la vie éternelle. Le paradis n'est plus une récompense pour les gentils, mais le paradis, c'est un moyen de louange, de manifester notre reconnaissance à l'éternel. Nous vivons 80 ans, 90 ans sur cette terre, ça ne suffit pas pour raconter l'éternel. Et en tenant compte du calendrier liturgique que nous suivons actuellement, nous sommes juste après l'ascension, c'est-à-dire le moment où Jésus est monté, revenu auprès du Père. Notre texte montre un Jésus qui à la fois il prépare les cœurs de ses disciples à affronter sa mort qu'il doit subir, mais en même temps son retour auprès du Père. Et le paradoxe est encore mis en exergue une fois de plus. Jésus annonce qu'il va aller rejoindre son Père. Alors les disciples, bien sûr, se sentent orphelins. Et cela les rendait tristes. Et voilà, revirement à 180 degrés. Jésus annonce au chapitre 14 de Jean, Je ne vous laisserai pas seul comme les orphelins, je reviendrai auprès de vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis. Je vis uni à mon Père, que vous êtes unis à moi et à moi à vous. Jean chapitre 14, versets 18 à 20. Je reprends. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Je viendrai auprès de vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon Père pour que vous êtes unis à moi et à vous. Nous pouvons être un peu perdus dans ces paradoxes, car tantôt il dit qu'il doit partir et revenir auprès du Père, et tantôt il dit autre chose, je ne vous laisserai pas orphelin, je serai avec vous. Alors comment comprendre cela? Le retour de Jésus vers le Père a permis à ceux qui appartiennent à Christ d'avoir une unité parfaite avec le Père. Et la combinaison de l'annonce de la mort de Jésus dans notre texte avec le projet du retour vers le Père nous fait comprendre plus facilement l'expression paulinienne que le Christ est le premier-né d'entre les morts. Donc celui qui est revenu auprès du Père est l'ambassadeur de tous les êtres humains. Il est le premier être humain à être dans le cercle divin à la droite du Père et qui nous représente à ses côtés. Qu'est-ce que cela implique pour nous? Cela explique qu'il n'y a plus de coupure entre notre aujourd'hui à nous et l'aujourd'hui de Dieu. Il y a une sorte de chevauchement des deux temps. Et cela est incarné dans l'expression prononcée par Jésus, l'heure est venue. L'heure de chaque croyant s'aligne à l'heure du ciel. Et rappelez-vous, tout au début du ministère de Jésus, la première phrase qu'il avait déclarée dans sa prédication, changez de vie car le royaume des cieux est tout proche. C'est-à-dire que le ciel s'est aligné à la terre. Il ne parle pas de durée, de temps, il parle de proximité. Alors, quel est le message pour nous aujourd'hui? Mettons-nous à l'heure du royaume des cieux. C'est pour cela qu'on a choisi ici l'image d'une montre. Il faut régler nos montres pour que soient alignées à l'heure du ciel. Nous savons tous que le décalage horaire a un impact sur la vie d'un être humain et même sur les animaux. Plus le décalage est énorme, plus l'impact se fait ressentir dans notre corps et dans notre santé. Et je reprends cette image pour nous dire que les messages que nous allons entendre tout au long de notre pérégrination terrestre, c'est d'ajuster tous les jours nos montres en fonction de la réalité céleste. Notre vie dans ce monde n'est que le reflet de notre vie plus tard. Et nous, ne nous met pas dans la passivité, puisque nous allons vers le Père un jour. Si notre montre spirituelle est alignée à la réalité céleste, cela ne nous laisse pas dans la passivité. Et donc, est-ce que nous nous installerons encore tranquillement dans notre fauteuil de la salle d'attente, comme disait ma sœur? Non. Les disciples qui avaient adopté cette attitude-là ont été recadrés par les anges. Pourquoi restez-vous là à scruter le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Actes chapitre 1, verset 11. Alors, ne perdons pas de temps à scruter le ciel. Adoptant la même attitude que Luther avait, et il disait, si Jésus revenait demain, je planterais un pommier aujourd'hui. C'est-à-dire, il anticipe le temps de la moisson. Il voit déjà aujourd'hui la récolte, puisqu'il a déjà les pieds dans le royaume du Père, tout en étant ici-bas. Voilà l'attitude d'un enfant de Dieu, vivre l'aujourd'hui du ciel. Amen.